Interview.
2 jours.
Bonne position, ouais.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et le 101.7 à Luc Andiwa. L'émission est aussi mise en écoute sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Élodie Potente. Bonjour.
Bonjour.
Élodie Potente, vous êtes une des intervenantes de cette émission, puisque nous devrions aussi avoir la compagnie de Françoise Mar par distance pour nous parler donc de ces journées internationales des droits des femmes et des minorités de genre. Alors, Élodie Potente, avant tout, on peut vous demander de vous présenter.
Oui, alors je suis journaliste à mi-temps au journal du Diwa et aussi indépendante. Et donc dans mon travail d'indépendante, je traite souvent des sujets liés aux droits des femmes, notamment sur les violences conjugales en ruralité ou les violences psychologiques. Donc j'interviendrai lors du débat après la diffusion du film She Said mercredi 8 mars.
Françoise. Bonjour.
Bonjour.
Alors, nous sommes en compagnie d'Élodie, hein, qui est au studio également. Est-ce que tu pourrais aussi te présenter, Françoise ?
Eh bien, Françoise Mar, cofondatrice de l'association Les Chouettes Solidarité Femmes du Diwa, et active au sein de ce groupe depuis 2-3 ans, accompagnatrice de femmes victimes de violences, de leurs enfants, et parfois d'hommes victimes. Les Chouettes ont un partenariat avec le Bestel, le cinéma de Die, et on a choisi ensemble ce film sur cette révolution que représente MeToo, le film She Said. Et j'animerai avec Jean-Pierre Dupestel ce débat. On aura l'honneur de discuter avec la salle et avec Élodie Potente.
Pourquoi ce choix sur ce film particulièrement ?
C'est une proposition Dupestel qu'on a acceptée parce que le Bestel passe des films récents. Mais il est intéressant parce que c'est un récit, ça montre toutes les investigations de ces journalistes spécialisés. Moi, grâce à Élodie Potente, la journaliste, j'ai lu le livre et ça montre la ténacité, l'obstination qu'il a fallu à ces journalistes et les craintes monumentales des femmes victimes de harcèlement jusqu'au viol de Weinstein. C'est-à-dire, ça montre bien les résistances gigantesques et le mur de défense installé par ce producteur Weinstein. Les contrats, c'est-à-dire il a versé des sommes parfois faramineuses d'argent pour réduire les femmes au silence. Donc il avait construit un mur et ce mur s'est effondré. Et dans la foulée, il s'est pris quelques années après 23 ans d'emprisonnement. Il y a d'autres procès après. Et puis il y a eu une centaine de femmes qui ont publiquement dénoncé ce qu'elles avaient vécu. Donc pour nous, dans notre milieu rural, hein, on est très très loin d'un MeToo. Pourtant, il y a des hommes qui ne sont pas des stars de cinéma, qui ne sont pas des producteurs, bien sûr, mais il y a des hommes dont nous savons qu'ils sont des récidivistes. Donc, voilà. Alors, en tout cas, le vent MeToo a soufflé sur toute la planète. Et c'était vraiment important, des années après, de discuter avec Élodie Potente et la salle et Quid en France.
Donc il y aura ce débat que tu animeras aussi également. Est-ce que il y a justement peut-être des questions qui seront peut-être dans l'air ?
Eh bien, replacer peut-être cette affaire MeToo, enfin cet événement MeToo, dans la révolution plus longue, dans un temps plus long. D'avancer pour les femmes. La révolution depuis les années 70, c'est-à-dire concernant, dans les années 70, essentiellement, enfin, la maternité, c'est-à-dire la contraception et l'avortement, et maintenant, depuis 2017, l'intimité et le corps sexué des femmes avec la dénonciation des violences sexuelles. Donc replacer MeToo dans un temps plus long. Et puis en France, c'est arrivé tardivement et je pense que Élodie Potente pourra nous aidera à voir comment MeToo a gagné plusieurs sphères, le sport, le journalisme sportif, le théâtre, le cinéma, la radio. Voilà, elle pourra nous éclairer sur, et c'est ça qui est intéressant, sur les résistances qui sont encore à l'œuvre dans notre société, quelle est l'évolution des pratiques journalistiques, pourquoi maintenant on parle de féminicide, par exemple, et plus de crimes passionnels. Voilà, nous, en invitant cette femme, Madame Élodie, on souhaite replacer le débat sur la France aussi.
L'actualité des chouettes aussi, son implication sur le territoire du Diois, est-elle encore en progression? Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'écueils à affronter?
Eh bien, je vais te dire qu'il n'y aura jamais de chômage pour nous, puisqu'il y a à peu près, dans le Diois comme ailleurs, un quart des femmes qui vivent des violences. Donc oui, nous sommes en permanence saisis de situations qui vont du harcèlement de rue aux violences physiques et sexuelles. Voilà, il y a tout un large panel. Donc voilà, donc on travaille avec des partenariats. On a des signes d'espoir parce qu'il y a des structures il y a une structuration de l'offre du parcours de soins des femmes, des drômoises victimes de violences dans les trois hôpitaux, pas à Die, hein, mais à Romans, Valence et Montélimar. Donc nous avons maintenant d'autres ressources qui n'existaient pas il y a quelques mois. Ça, c'est porteur d'espoir. Et puis, la gendarmerie souffre d'un manque d'effectifs croissant. À l'hôpital, l'accueil dépend vraiment de la personnalité des soignants qui s'y trouvent. Et il n'y a pas encore de chemin mis en place à l'hôpital de Die pour accueillir véritablement et, par exemple, tenir un décompte des femmes qui viennent pour faire de violence à l'hôpital. Voilà, donc il y a des évolutions sur le territoire. On a une nouvelle déléguée aux droits des femmes très... très positif sur cette question et qui nous soutient, nous, les chouettes. On a maintenant on va se réunir demain au sein d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, un CLSPD, qui sera consacré aux violences intrafamiliales. Donc ça, c'est aussi intéressant. Voilà, nous, on continue aux chouettes cette année. On creuse le même sillon. Hein. Tu sais, on est un peu comme un diesel. Nous, on avance lentement, on fait des accompagnements individuels, on propose toujours des ateliers pour les femmes, mensuels et gratuits. Cette année, on organise aussi un week-end de 3 jours en montagne pour les femmes. Et puis, on va travailler la question des addictions et violences, le lien entre addiction et violence. On va essayer de faire quelque chose sur la prévention des violences en milieu sportif. Voilà, on a plusieurs projets.
Tu es aussi à l'origine de la venue de la compagnie Kata, je crois.
Oui.
Et donc, Kata, assez connue quand même sur le Diois, hein, avec Anne Deval comme auteur, compositrice et peut-être aussi bien d'autres choses.
Oui, moi j'ai eu l'occasion de la voir à une soirée proposée par la bibliothèque, par la librairie La Mosaïque, sur un travail qui n'a rien à voir. Enfin, j'ai eu l'occasion de l'entendre et elle m'a vraiment éblouie elle m'a vraiment ébloui par tout ce qu'elle, par sa créativité, par sa fulgurance intellectuelle. Et elle a vraiment plein de choses, je pense, à slammer, à compter, à mettre en voix sur l'histoire dite par les femmes, enfin, l'histoire d'un grand H, faite par les femmes. Et elle sera accompagnée d'un musicien, et je sais que ça sera 2 heures à peu près, enfin 1h30, 2 heures, je sais pas comment dire. Décapante.
Françoise, tu voudrais peut-être dire un ou deux mots à Élodie, peut-être
Si tu veux. Élodie, les chouettes sont vraiment ravies que tu aies accepté de te retrouver de l'autre côté du micro avec cette petite interview. C'est pas à Radio Diois, c'est pas ton habitude. En général, c'est toi qui interviews. Et c'était vraiment une résonance locale pour nous, c'est-à-dire que tu as un pied dans le Livois au sein du journal du JDD, et puis un pied dans des médias nationaux, en ligne ou en papier. Et on a déjà eu au Chouette l'occasion de percevoir la pertinence et l'immensité de tes connaissances dans tout ce qui concerne les femmes et les violences faites aux femmes. Donc on est vraiment, on te remercie beaucoup de participer mercredi 8 mars à 20h, enfin après la diffusion du film, au débat.
Françoise, eh bien merci en tout cas de nous avoir donné un peu de ton temps.
Bah merci à toi de faire ça. Hein.
Merci.
Dans l'ordre chronologique de ces trois journées, donc à partir du mardi 7 mars, il y a une inauguration de l'exposition des femmes pas ordinaires de Die. Ça sera à partir du 5 jusqu'au 31 mars à la mairie de Die à 19h, donc pour le vernissage, j'imagine. On passe au mercredi 8 mars avec une kermesse des jeunes qui s'adresse donc de 11 à 25 ans. C'est organisé avec l'Espace Jeune et d'Aurélie Rabine, justement, et qui parle de déjouer les préjugés, les inégalités et les discriminations. Donc il y aura des stands de jeux pour sensibiliser, questionner et réfléchir ensemble. Est-ce que c'est une belle introduction, Elodie, pour toi, de cette prise de conscience?
Oui, je trouve que la jeunesse, en fait, elle n'est pas très souvent interrogée sur ces sujets. Pourtant, on sait qu'il y a énormément, par exemple, pour prendre que le sujet des violences, il y a énormément de violences dans les jeunes couples, plus que ce qu'on veut bien le croire. Et l'inégalité entre les femmes et les hommes, et aussi avec les minorités de genre, se déclenche dès la crèche, en fait. Enfin, il y a plusieurs études qui montrent que dès la crèche, les stéréotypes de genre font qu'on différencie, en fait, les filles et les garçons. Donc c'est intéressant de donner la parole en fait à des jeunes et de leur faire prendre conscience. Mais je pense que la génération qui vient est assez formée sur ces sujets et c'est assez intéressant de les voir évoluer aussi sur ces sujets-là, quoi.
Vous êtes journaliste freelance en quelque sorte, vous rédigez auprès de nombreux magazines ou journaux. Quel est votre champ d'action, votre champ d'étude? Cela va depuis l'enfance jusqu'à la femme adulte et voire même au-delà?
Plutôt les adultes, pour plusieurs raisons. Déjà parce que je suis rentrée par le prisme de la ruralité, puisque j'y vis, j'y travaille. Donc du coup, c'est vrai que c'est très intéressant, c'est un angle mort en fait des violences. Mais il y a plein de choses à dire en fait, il y a plein de subtilités dans le schéma des violences, etc. C'est-à-dire qu'on peut déjà parler dès l'adolescence en fait de violences dans le couple. Donc du coup, c'est assez intéressant. Et c'est vrai que moi, mon champ de travail, c'est plutôt l'âge adulte. Mais en tout cas, il y a plein de journalistes qui sont indépendantes aussi. C'est plutôt des femmes qui travaillent sur tout un tas de sujets, que ce soit les violences dans l'adolescence, dans les milieux auxquels on ne pense pas, par exemple les milieux bourgeois. Je veux dire, il y a plein de personnes qui écrivent sur ces sujets et tant mieux, on en a besoin.
Vous parlez de ruralité et en même temps, est-ce que vous avez un regard, vous citiez aussi le milieu bourgeois, mais est-ce que vous êtes allé justement dans ces types de classes? Est-ce qu'on peut y retrouver les mêmes problématiques?
En fait, si j'ose dire ça comme ça, le point commun des violences faites aux femmes, c'est que ça peut arriver à n'importe qui. Peu importe sa classe sociale, peu importe la classe sociale de son ou sa partenaire. Enfin, je veux dire, en fait, ça peut. Il y a pas de. On a toujours l'impression que ça vient dans certains milieux sociaux, mais en fait, ça peut arriver à n'importe qui, quoi. Et dans les milieux ruraux, ce qu'il faut savoir, et donc il y a une conférence le 9 mars, Femmes et ruralité, c'est qu'il y a un rapport du Sénat qui a été fait et qui a été coécrit par Marie-Pierre Monnier, qui est sénatrice de la Drôme, sur le fait que les femmes en ruralité. Et donc dans ce rapport, on peut lire que presque 50% des féminicides ont lieu en milieu rural, alors que seul un tiers des femmes françaises y vivent. Ça veut dire que proportionnellement, on est quand même plus sujet à vivre des féminicides en milieu rural qu'ailleurs, en fait.
À suivre, ce mercredi 8, il y aura la Bibliovanne des Zébrés, donc une association de la Drôme également, qui proposera un espace de lecture pour les ados, jeunesse, adultes, et sur les corps, sexualité et émancipation, avec des fanzines et puis des affiches à prix libre et aussi des petites friperies. Et à suivre, donc une borne d'écoute sera aussi présente, place de l'Évêché, et ça seront des récits sonores de matrimoine Andiwa, qui seront proposés à l'écoute à partir de midi jusqu'à 17h. Et donc, ces abords-là de Dézébrés, ça aussi, c'est un moyen de pouvoir informer, de pouvoir toujours dans cette notion de ces droits, tout simplement.
En fait, ce qu'on a vu depuis 2017, j'ai l'impression, du moins en France, et ailleurs aussi, mais si on centralise sur la France, c'est qu'il y a eu énormément de livres qui ont été écrits par des femmes, par des minorités de genre, sur des thématiques féministes. Et du coup, en fait, avant, c'est vrai qu'on avait peut-être moins accès à cette information, mais aujourd'hui, l'information est accessible, en tout cas.
Je reviens un peu sur la présentation. Hein. Vous parlez des minorités de genre. Ça, c'est une prise en compte récente aussi, peut-être voire nouvelle dans ces journées des droits.
Oui, c'est assez récent. Alors, je ne sais pas si je suis la mieux placée pour me prononcer dessus, mais en tout cas, c'est vrai que les jeunes, j'ai l'impression, même les moins jeunes, sont plus dans un questionnement du genre, dans une forme de non-binarité. Ça permet aussi d'inclure, par exemple, les femmes trans, qui sont souvent, malheureusement, en ce moment, exclues des combats parfois féministes. Enfin, voilà. Donc, ça permet une espèce de diversité. Je pense que c'est important pour plein de personnes et du coup ça permet d'ouvrir aussi le débat qui est nécessaire, je pense.
Et puis à la suite, donc toujours dans l'après-midi, la pratique écriture et parole à la découverte de poétesses insoumises. C'est organisé par Gise Brun-Pinel, qui est intervenante en écriture auprès de tout public. Et il s'agira donc de se prospecter, peut-être aussi de déclarer sa flamme. Pour l'inscription, il s'agira donc d'écrire à gise7@protonmail. Nous passons sur cette soirée film débat chez Said, dont Françoise nous a parlé un peu, de Maria Schrader. Donc il y a eu quelques films sur ce thème. Je me souviens d'un autre qui parlait d'un patron de télévision new-yorkaise aussi. Je ne me souviens plus du titre. Et un plus récent qui s'appelle The Assistant, qui est censé être une femme embauchée comme secrétaire auprès de Weinstein. Donc il y a quand même une prise de conscience. Et le cinéma américain, je ne sais pas si au niveau français il y a eu cet abord, mais est-ce que ça aussi c'est un moyen, le cinéma, de cette prise de conscience?
Ce film, il est particulier parce qu'il raconte l'enquête journalistique de deux journalistes donc, qui s'appellent Jeudi Cantor et Megan Tooney, qui travaillent au New York Times et donc qui suivent une piste comme quoi Harvey Weinstein aurait agressé sexuellement plusieurs actrices et qui, en fait, à la suite d'une enquête très longue et très difficile, révèle en fait que c'est pas une femme, c'en est des dizaines. Et du coup, suite à ça, il y a un hashtag qui est lancé sur les réseaux sociaux qui s'appelle MeToo, qui avait été lancé en fait en 2006 par Tarana Burke, qui est une militante afroféministe, mais en 2006, Twitter n'était pas forcément à la même proportion qu'en 2017. Et donc, les femmes commencent à parler et commencent à dire « moi aussi, j'ai vécu, moi aussi, j'ai vécu ». Donc ça, en fait, c'est une déflagration. Oui, il y a déjà eu, avant 2017, il y a eu des choses qui ont été, que ce soit médiatiquement ou dans le cinéma, qui ont résonné dans le milieu culturel. Mais en fait, ce que ce film raconte, c'est vraiment comment le journalisme a fait, comment deux femmes journalistes ont fait tomber un des producteurs les plus connus d'Hollywood, mais aussi un système, en fait. Et moi, je pense que si on revient en France, on a vu le même système, notamment récemment avec l'affaire PPDA, un système de domination, un système de pouvoir, un système de silenciation des victimes qui a duré pendant des décennies. Et en fait, là, il y a 80, Weinstein, il y a 80 plaignantes, et donc il a été condamné à 23 ans de prison, plus 16 ans récemment pour d'autres faits. Et donc en fait, on voit que l'impunité, elle est terminée, et que en fait, il ne peut plus agir de la sorte, et que ce milieu-là, qui est géographiquement à Hollywood, en fait, il résonne en fait dans le monde entier. Et que en fait toutes les femmes disent stop en fait tout simplement. Donc moi je trouve qu'il est intéressant, c'est intéressant de voir ce basculement, parce que c'est vrai que c'est une enquête qui a été extrêmement difficile et il a fallu tenir sur la longueur. Et souvent quand on est journaliste, quand on a des bâtons dans les roues entre guillemets, on peut arrêter aussi des enquêtes. Il y a des enquêtes qui s'arrêtent, qui ne sortent jamais. Et là elles ont tenu, et en fait elles ont tenu aussi le entre guillemets le secret de l'enquête, c'est-à-dire qu'elles ont Weinstein a été au courant assez tard, finalement, qu'il y avait une enquête journalistique. Enfin, il y a eu deux enquêtes, en fait. Il y a eu aussi un journaliste du New Yorker qui a fait une enquête parallèle. Mais je veux dire, il a été au courant assez tard, finalement. Et je pense que le film raconte aussi ça, tout ce danger, entre guillemets, parce qu'il est quand même assez puissant et qu'il a silencié plein de femmes, et des femmes qui sont aujourd'hui actrices connues, etc. Donc du coup, en fait, je trouve que c'est intéressant de voir toute cette progression et comment, en tant que journaliste, on peut aussi... changer les choses, quoi.
Changer les choses en France aussi, et ça, c'est pas encore gagné. On a pu voir depuis quelques années aussi un bouleversement dans le milieu du spectacle, avec une multitude de dénonciations, et il y a encore des retours de bâton. On a pu voir la sélection des Césars qui a écarté la plupart des nominées féminines, en laissant la part belle aux hommes encore. Il y a des frictions actuellement. Est-ce que ça tendrait à se développer ? Est-ce que vous y voyez justement un espoir de pouvoir établir concrètement ce droit des femmes ?
Alors, il faut savoir qu'avant 2017, dans les rédactions, alors moi je suis sortie de l'école en 2017 justement, mais j'avais un peu cette impression que dans les rédactions, il y avait énormément de femmes qui travaillaient sur ces sujets plutôt en indépendante, mais dans les rédactions, souvent ces sujets étaient un peu à la marge. Je pense qu'on peut citer Mediapart dans l'affaire Denis Baupin qui, du coup, met en cause pour agression sexuelle un député, il était député, je crois, oui, ELV, et donc du coup, plusieurs femmes qui témoignent et lui qui fait un procès pour diffamation, qu'il perd évidemment, puisque bon, voilà. Mais du coup, en fait, voilà, à part ça, en 2016, je veux dire, avant ça, il y avait l'affaire DSK qui a quand même pas été facile à traiter médiatiquement. Enfin, je veux dire, il y a eu plein de choses, mais en fait, c'était toujours un an, un instant. Aujourd'hui, je pense que mettre dans les médias nationaux, mais même locaux, des sujets comme les violences faites aux femmes, les violences sexuelles, etc., c'est quand même beaucoup plus facile. Et du coup, en fait, il y a un espoir de... Aussi, notre rôle en tant que journaliste, je trouve, de mettre ces sujets-là dans les médias, de faire des enquêtes qui sont impeccables, hein. Parce que voilà, Nicolas Hulot, c'est une enquête impeccable qui a duré 4 ans. PPDA, c'est une enquête qui est tentaculaire, mais qui est impeccable aussi. Et que eux, les accusés portent plainte pour diffamation. Mais en fait, souvent, Marine Turki, qui est journaliste à Mediapart, raconte dans son livre Faute de preuves que souvent, un peu pour les violences sexuelles, notamment, un petit peu en sous-main, ils enlèvent leur plainte. En fait, mais ils ne le disent pas, ça, par contre. Donc, il y a un espoir. Après, c'est sûr qu'il y a un backlash. Ce qu'on appelle le backlash, c'est le retour de bâton, quoi. Moi, quand je pense au César, je pense pas forcément, bon, c'est sûr que bon, les femmes nominées réalisatrices, on sait très bien que c'est rarement le cas, mais moi je pense plutôt à Roman Polanski qui a été nominé quand même 12 fois au César, alors qu'Adèle Haenel venait de faire cette déflagration du cinéma français qui venait de témoigner pour, parce qu'elle avait été victime d'agression sexuelle alors qu'elle était mineure et qu'elle avait 12 ans, et par le premier réalisateur qui l'a mise dans un film. Du coup, elle vient de témoigner, ça a retenti dans Mediapart, a retenti partout, et c'est vraiment une déflagration. Et pourtant, les Césars nomment 12 fois quelqu'un qui est recherché, il est recherché par Interpol pour agression sexuelle sur mineur, donc pédocriminalité, et donc ils le nomment 12 fois. Et c'est quand même, voilà, on se dit, mais c'est quand même incroyable, quoi, que, je sais pas, ils se sont pas rendus compte, c'est pas une question de qualité de son film, c'est une question de qu'est-ce que ça dit de la société, en fait. Donc je pense que l'espoir, il est là, mais il y a toujours des retours de bâton, il faut être préparé à ça, il faut vraiment être préparé, et en fait, bien sûr que quand quelqu'un est connu et qu'il est traîné dans la boue, même si il y a toutes les preuves de ce qu'il a fait, ben, il va tout faire pour dire qu'il a rien fait. Mais bon, en soi, quand on a 90 personnes qui disent que Patrick Poivre d'Arvor les a agressés sexuellement, je pense que on peut porter plainte pour diffamation. Enfin, Patrick Poivre d'Arvor peut porter plainte pour diffamation. Concrètement, le nombre, en fait, l'affaire Weinstein, elle révèle ça, le nombre est important. Et quand il y a plus y a de victimes, même si c'est horrible hein, de dire ça, parce que c'est un truc mathématique, mais plus il y a de victimes, et en fait... plus... Parce que s'il y avait une seule femme qui avait porté plainte contre Harvey Weinstein, en fait, je pense que ça n'aurait pas eu le même retentissement, même si une victime, c'est déjà trop. Mais je veux dire, en fait, le nombre a fait basculer, en fait, la société. Et PPDA, pour moi, c'est notre Weinstein français. C'est-à-dire que pendant des décennies, il y a un présentateur télé qui était tous les soirs sur notre télévision, qui a agressé sexuellement des femmes, en fait, et qui a brisé des carrières, qui a brisé des vies, et qui, en fait, s'en est sorti impunément, et qui, aujourd'hui, doit répondre de ses actes, et qui, en fait, dit qu'elles ont fait un complot contre lui. Enfin, c'est quand même incroyable, il y a 90 personnes qui disent la même chose, c'est des mécaniques, en fait.
Donc, un débat animé, hein, j'imagine. Il y aura... quelle personne présente pour ce débat? Est-ce qu'il y aura un intervenant spécifique?
Il y a Françoise Deschouettes.
Oui.
Sachant que Les Chouettes, c'est une association qui est extrêmement importante pour un territoire comme le Diwa, mais même au-delà. C'est une association qui maille en fait le territoire, qui aide les femmes victimes de violences. Et en fait, sans des associations comme Les Chouettes, je pense que les femmes victimes de violences seraient bien seules, en fait. Parce que c'est vrai que c'est très difficile quand on vit dans un milieu rural. C'est encore plus difficile, et c'est ce que montre le rapport femmes et ruralité. C'est-à-dire qu'il y a la mobilité, il y a les services publics qui sont loin. On peut très vite se sentir isolé parce qu'on a l'ambiance village et que tout le monde se connaît, etc. Et donc, du coup, ben, en fait, le fait que Les Chouettes existent, ça permet de vraiment d'accompagner ces femmes et de trouver aussi... des personnes qui les aident, en fait. Et donc voilà, c'est Françoise Marc qui va co-animer avec moi et le propriétaire du Pestel.
En tant que journaliste, Élodie, vous avez donc vous citez l'association Les Chouettes. Est-ce que par votre activité de journaliste, vous rendez compte qu'il y a ce type de structure qui s'opère de plus en plus sur le pays?
Oui, il y a d'autres lieux où il y a des associations qui maillent vraiment le territoire. Bon, déjà dans la Drôme, hein, je veux dire, il y a une association qui s'appelle Femmes à l'abri 26 à Bourdeau et qui fait de l'hébergement, enfin, qui met en place de l'hébergement d'urgence parce que l'hébergement est une grosse question pour les femmes victimes de violences.
Comme Femmes Répit aussi.
Femmes Répit aussi qui fait des séjours de répit pour les femmes. Les femmes victimes de violences. Il y a dans d'autres lieux, il y a aussi d'autres associations. Je pense, moi, je viens du Tarn. Je pense, alors, je me souviens plus le nom de l'association, mais il y a une association dans le Tarn qui est vraiment qui pousse en fait pour avoir des moyens pour accueillir les femmes. Le Tarn est un département assez rural, même s'il y a deux grandes villes entre guillemets. Et donc, il y a d'autres associations un peu partout. Mais c'est grâce à ces associations et plus elles sont, je dirais, au micro local, plus elles peuvent mailler. De la meilleure des façons, le territoire. Et évidemment, il y a tous les CIDFF hein, qui sont présents sur les territoires, qui font des permanences, notamment dans les villes des départements. Il y a aussi... en fait, il y a des lignes d'écoute, 3919, commentonsaime.fr, qui est un chat en ligne. Enfin, voilà, il y a plein de d'associations qui font leur part du travail, quoi.
jeudi 9 mars, table ronde, et ça se passera à la mairie à partir de 18h30. Et c'est une table ronde qui sera animée par Nikita Smith. On pourra peut-être la présenter. Je la connais à peine. Je crois qu'elle évolue au niveau de la Vallée de Caen, il me semble, dans diverses structures associatives. Et seront donc en débat Marie-Pierre Monnier, sénatrice de la Drôme, et Isabelle Bizouard, notre maire de la ville de Die. Donc, toutes les deux parleront de l'évolution sur la femme et ruralité, l'évolution et quels enjeux à venir pour les femmes en ruralité, avec une introduction, un temps d'échange, et puis de témoignages donc, à connaître. Qu'en dire de plus sur cette possibilité de débat?
On peut sur parler la ruralité, il y a plein. En fait, ce qui est intéressant dans le rapport qui a été fait par le Sénat, c'est qu'on voit qu'il y a plein de problématiques qui finalement se rejoignent. Donc, il y a la mobilité, l'emploi, il y a l'accès à la santé. Enfin voilà. Et donc, du coup, quand on parle des violences, forcément en ruralité, des violences faites aux femmes, en fait, on voit que, par exemple, la mobilité peut être un vrai frein. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à aller, on n'a pas de voiture, on ne peut pas aller à la gendarmerie, c'est un petit peu compliqué, quoi. Et donc, du coup, en fait, ce rapport, il est vraiment essentiel pour nous montrer que, en fait, il faut mettre des moyens dans les ruralités pour maintenir des mobilités, des services publics, de l'emploi, pour que les femmes, en fait, peu importe, même si elles ne sont pas victimes de violence, mais qu'elles soient autonomes, indépendantes, et que voilà. Donc du coup, qu'elles vivent une vraie égalité entre les femmes et les hommes, quoi. Et du coup, voilà. Et ça montre aussi, il y a une partie sur les élus, en ruralité, donc l'entrée en politique en ruralité. Enfin voilà, il y a tout un truc sur ça. Et après, ce que je voulais dire aussi, c'est que les élus du Diwa, il y a deux référents pour les femmes victimes de violences dans le Diwa, deux élus référents, et ils sont en train de se former aussi pour parce que les maires sont souvent, les élus ou les maires sont souvent un peu dans les villages la première porte en fait d'entrée, c'est-à-dire on va peut-être se confier parce qu'on connaît son maire, et du coup ils sont en train de se former, et ça c'est vraiment assez unique, et c'est assez quand même un travail intéressant, et donc c'est à souligner, quoi.
D'ailleurs, quel est le champ d'action d'un maire, que ce soit d'un village ou d'une petite ville, comme dit? Est-ce qu'il a des prérogatives de manière à pouvoir agir sur des problématiques de cet ordre?
Au niveau de la législation, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'en maire, je pense plutôt au petit village, c'est sûr qu'il est en première ligne sur tellement de choses que quand quelqu'un vient se confier à lui, forcément, je sais qu'il y a des maires dans le Diwa qui amènent des femmes à la gendarmerie parce que c'est qui appellent la gendarmerie en amont parce que en fait, c'est plus rassurant hein, quand même de. Enfin, je veux dire, il faut quand même se rendre compte que aller porter plainte, c'est pas rien. Et donc du coup, eux, ils facilitent un peu peut-être le chemin et ils mettent aussi en relation avec des structures comme les chouettes ou. Enfin voilà. Donc en fait. Je ne pense pas que légalement il y ait des obligations, mais en tout cas, je pense que ça doit être difficile aussi comme position, hein, parce que dans un village, tout le monde se connaît. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une volonté dans le Diwa d'être en cette première ligne-là et d'accueillir aussi la parole, qui est difficile aussi à dire, quoi. Il faut quand même s'en rendre compte.
Marie-Pierre Monnier, sénatrice, donc qui participera à ce débat, et fait partie également de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Donc, elle agit par le Sénat, donc dans cette action. Et puis, elle co-signe des propositions de loi, notamment celle de l'accès aux responsabilités pour les femmes. Ça aussi, c'est. Est-ce que ça, justement, c'est un frein à cette, cette bataille pour cette reconnaissance des droits, est-ce qu'il y a encore des places qui sont réservées aux hommes au point de vue des puissances de pouvoir ou d'agissement?
Alors, réservé en soi, non. Enfin, je veux dire.
Entre guillemets.
Oui, voilà. Non. Mais c'est sûr que le pouvoir, déjà, on a quand même vu. En politique, quoi, il a fallu entre guillemets mettre des quotas pour que les femmes puissent rentrer en politique. On a vu là récemment que Il y a quand même beaucoup de femmes qui ont parlé. Bon, je ne citerai pas les affaires, parce que sont, voilà, mais que ce soit à la France Insoumise ou à Europe Écologie Les Verts, il y a beaucoup de femmes qui ont parlé. Il y a des cellules en interne d'accueil des, d'écoute sur les violences qui ont été vécues par les militantes, les membres des partis. Et en fait, on voit quand même que... Je pense que ce qui est difficile pour les femmes, c'est de, d'accéder à certains postes, mais parce que en fait, on, déjà, on leur a appris depuis toute petite que certains postes étaient réservés aux hommes, en fait. Et puis, il y a un phénomène que j'ai beaucoup, sur lequel j'ai beaucoup écrit, qui s'appelle la falaise de verre. C'est des chercheurs, et une chercheuse et un chercheur anglais qui ont fait ça. En gros, c'est de dire qu'à chaque fois qu'une femme est mise à un poste de pouvoir, c'est en situation de crise. Et du coup, c'est-à-dire qu'elle elle brise le plafond de verre, elle atteint ce poste de pouvoir, mais en fait, c'est toujours dans une situation extrêmement difficile qui va la faire échouer. Et l'exemple le plus concret qu'ils ont soulevé, c'est Theresa May qui devient première ministre en Angleterre, donc la deuxième hein, quand même, après Margaret Thatcher, et en fait, qui, 15 jours après, le vote pour le Brexit. Et donc, c'est impossible, en fait. Impossible de faire son travail, quoi. Enfin, parce qu'en fait, juste, son pays est divisé, en fait. Et du coup, bah, en fait, voilà, c'est un phénomène qui a été beaucoup étudié. Je ne sors pas ça du chapeau. C'est vraiment, il y a vraiment des études très intéressantes dessus. Et qui a été fait aussi en France sur les législatives. Et du coup, qui montre qu'en fait, souvent, dans des territoires impossibles à gagner, par exemple, ben, les partis traditionnels vont mettre des femmes, en fait. Voilà. Et c'est intéressant.
Comme le Françoise le disait tout à l'heure, il y a aussi une action à mener hein, dans les déserts médicaux et peut-être aussi socio-psychologiques sur la ruralité. Donc, est-ce que ça aussi, c'est une prise en compte à développer et est-ce que vous, en tant que journaliste, vous constatez une amélioration dans ce domaine ?
Les déserts médicaux, c'est un gros sujet d'actualité.
J'associe les déserts médicaux avec aussi la misère psychologique, parfois, qui pourrait être prise en charge, et ce qui n'est pas forcément le cas, encore plus dans les milieux ruraux.
Bah, disons que si on parle purement de l'aspect médical, dans le Diwa, depuis, je sais pas, peut-être un ou deux ans, il y a quand même des sages-femmes qui se sont installées et qui, je trouve, ont un rôle assez prépondérant sur la prise en charge des femmes de façon générale. Hein, voilà, on peut faire un suivi gynécologique chez une sage-femme sans être enceinte. Hein, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Après, sur la psychologie, mais c'est partout, en fait. Je veux dire, les femmes qui sont prises en charge, par exemple, après avoir vécu des violences, mais en fait, c'est assez catastrophique. Mais c'est pas que dans les milieux ruraux, mais d'autant plus dans les milieux ruraux, quand il faut faire peut-être, je sais pas, je connais pas le nombre de psychologues ou de psychiatres qu'il y a dans la Drôme. Mais en tout cas, bah, on peut se dire que pour trouver un rendez-vous, on va peut-être devoir aller plus à Valence. Et du coup, bah, il faut faire quand même une heure et quart, si on vit dans le Haut-Diwa un peu plus, de train, de bus, si on n'a pas de voiture, enfin ou de voiture. Et donc, du coup, c'est sûr que ça ne favorise pas forcément... on va dire la santé mentale, mais il y a tout un travail qui a été fait par la communauté de communes sur la santé mentale et qui est très intéressant. Et je trouve que voilà, tout se rejoint, c'est sûr.
L'éducation, quelle est sa place aussi dans cette problématique ? Là encore ce matin, on apprenait que trois associations françaises attaquaient le gouvernement ou l'État pour la non-diffusion de cours de sexualité à l'adresse des collégiens et lycéens. Est-ce qu'on peut faire le parallèle pour d'autres problèmes ?
Bah, complètement. Alors... Il faut savoir vraiment que... Enfin, moi, j'ai travaillé avec des sociologues sur les stéréotypes de genre dès la crèche. Et il faut savoir vraiment que dès la crèche, en fait, on différencie en fait, la façon dont on traite les filles et les garçons, ce qui crée des inégalités alors que les enfants ne sont même pas âgés, enfin, ils ne sont même pas encore à l'école. Ensuite, oui, l'éducation à la vie sexuelle et affective est extrêmement importante parce que, bon, bah, sans forcément rentrer dans les détails, mais je veux dire, il y a quand même... Les jeunes, ils ont des images qu'ils trouvent sur Internet, hein, ils ont des pratiques sexuelles qu'ils vont trouver sur Internet, des pratiques relationnelles aussi qui disent... Bah, qui voient la télé ou qui voient, qui lisent ou j'en sais rien, mais du coup ils se disent c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Et du coup, ben, en fait, on se retrouve avec des enfants qui ne sont pas formés, qui ne peuvent pas parler de, des vrais sujets, parce que bon, bah, excusez-moi, mais dérouler un préservatif sur une banane, ça n'apprend pas la sexualité, ça apprend à se protéger, c'est essentiel, mais en fait, je veux dire, il y a d'autres choses en fait à explorer, et juste, ben, et je parle même pas des jeunes LGBT qui en fait, enfin, je veux dire, on a vu quand même qu'il y a un gamin de 14 ans qui s'est suicidé pour, à cause de l'homophobie qu'il a vécue. C'est-à-dire qu'on n'a pas des espaces en fait, mais ça, c'est, je sais pas si c'est très français, mais en tout cas, on n'a pas d'espace pour que les jeunes puissent prendre la parole sur ces sujets-là, s'exprimer sans qu'il y ait des ricanements, des choses comme ça, sans que ce soit tabou, sans que ce soit honteux. Et je sais que, par exemple, l'espace jeune fait un vrai travail. Ils ont un stand tous les premiers vendredis du mois à la sortie de la cité scolaire sur des thématiques différentes, mais ça peut être aussi des thématiques, on va dire, plus généralistes sur la sexualité. Et ils sont à l'écoute et en fait, bah, tous les lycées, tous les collèges lycées devraient avoir un stand comme ça, rien qu'à la sortie. Et je sais que voilà, il y a des collèges lycées qui font le travail, qui font voilà, mais il y en a plein qui font pas le travail, c'est sûr. Et en fait, c'est un petit peu décourageant aussi, alors que c'est obligatoire hein, quand même, je rappelle.
Voilà, et donc une proposition aussi défendue contre la violence pornographique, défendue par Marie-Pierre Monnier sur des propositions de loi ou de présentation, de résolution du moins. Et puis on va terminer ce jeudi 9 mars avec un spectacle de la compagnie Kata. J'espère qu'elle passera au studio dans ces prochains jours pour marquer sa présence. Et donc, Quand elles sont mêlées, c'est le nom du spectacle et c'est organisé par les Chouettes. Et donc, il s'agit aux femmes de prouver que faire de la politique n'est pas juste mettre un bulletin dans une urne. Voilà, avec des histoires populaires, contées, chantées, slamées, et des musiques imaginaires. Ça se passera donc à la salle Séverine Baumier, donc rue Joseph Reynaud, et ça sera à 19h45, avec le spectacle à 20h. Pendant ces trois journées, du moins ces deux journées plutôt, il y aura la garde d'enfants possible, avec la corderie du Pays d'Iwa. Donc vous pouvez vous renseigner, j'imagine, sur le site, ou alors appelez Sandrine au 06 12 40 91 90. Eh bien, cette émission touche à sa fin. On peut noter aussi donc l'implication pour ces journées de l'espace social et culturel du Diwa, la ville de Di. Et puis, il y a aussi le service jeunesse et place de l'évêché, les Chouettes aussi. Et puis, la préfecture hein, qui travaille depuis un certain temps avec les Chouettes, notamment pour cette problématique. Le cinéma Le Pestel et puis les Dézébrés pour cette librairie. Et puis, Air Diwa qui propose une borne d'écoute. Elodie, cet aspect de société sur la violence faite ou le non-droit des femmes, est-ce que c'est une priorité dans votre activité de journaliste ?
J'essaie. Alors, il y a des moments où... Enfin, il y a aussi... Il faut savoir quand même que c'est des sujets assez difficiles à faire. Pour plein de raisons, et donc parfois, bon, j'ai d'autres aussi, j'ai d'autres employeurs, etc. Mais j'essaie de les placer aussi, par exemple, je travaille pour un hebdo agricole et j'ai réussi à placer un article sur les violences faites aux femmes en ruralité, je trouve que c'est important. Donc voilà, pas forcément que dans les grands médias, donc oui, je pense que c'est un sujet qui me traversera toujours, et je pense que c'est un sujet dont on devrait tous et toutes s'emparer, notamment la presse locale, et que c'est important quoi, de pas juste en parler le 8 mars et le 25 novembre, mais un peu toute l'année, et pas dans les faits divers.
Elodie Poutante, en tout cas, merci de votre présence sur Air Diwa pour nous parler donc de ces journées internationales des droits des femmes et des minorités de genre.
Merci beaucoup.
Bonne soirée. Au revoir.